Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le terme aurait été inventé par deux sociologues, Francis Château-Renaud et Didier Torny, en 1999, dans leur livre « Les sombres précurseurs », une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque. Le lanceur d'alerte y est défini comme une personne ou un groupe qui estime avoir découvert des éléments qu'il considère comme menaçants pour l'homme, la société, l'économie ou l'environnement, et qui, de manière désintéressée, décide de les porter à la connaissance d'instances officielles, d'associations ou de médias, parfois contre l'avis de sa hiérarchie. Ce ne sont pas des délateurs, des mouchards, ni des infiltrés, pas des militants, ni forcément des défenseurs des droits de l'homme ou des objecteurs de conscience. Ce sont des résistants, au sens classique du terme, mais qui concentrent leur action sur des enjeux très contemporains, avec des moyens tout aussi modernes, une clé USB au lieu d'un microfilm caché dans la chaussure, un clic envoyé et c'est parti. D'après les deux sociologues cités par E89, les premiers lanceurs d'alerte français seraient Henri Pézera, un chercheur en pointe sur les dangers de l'amiante dans les années 70, Anne-Marie Casteret, la journaliste, souvenez-vous, qui en 1991 a révélé le scandale du sang contaminé, et peut-être aussi Jean-François Vielle, le professeur de médecine, qui a révélé un taux excessif de leucémie à proximité du centre de retraitement des déchets radioactifs de la Hague en 1997. Les plus connus de notre siècle sont bien sûr Bradley Manning et Julian Assange, à l'origine de Wikileaks, le premier ayant été condamné le 21 août 2013 à 35 ans de prison. Il y a aussi bien sûr Edward Snowden, ancien employé de la CIA, à l'origine de fuites massives sur la surveillance mondiale exercée par la NSA américaine. Il est aujourd'hui exilé en Russie. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, deux histoires moins connues. La première est celle de Raphaël Halley, un des lanceurs d'alerte français à l'origine des LuxLeaks, les fuites de documents sur l'évasion fiscale au Luxembourg. Son procès a eu lieu en mai. 18 mois de prison ferme ont été requis contre lui. Le jugement sera prononcé le 29 juin. La seconde histoire est celle d'une femme travaillant pour la banque suisse UBS qui a essayé de parler et du moins de se faire entendre. C'est jusqu'à 14h sur France Culture, ce sont deux récits d'Ayati Bazarslan.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai commencé par travailler dans une entreprise en Suisse, une entreprise de déménagement en tant que secrétaire. Et pendant plusieurs semaines, j'ai un gros cabinet d'audit au Luxembourg qui m'a demandé plusieurs fois de venir faire un entretien chez eux. C'est comme ça que je me retrouve début septembre 2006 à faire un entretien et être embauché chez eux en tant que secrétaire. Dans le monde, c'est une entreprise qui a quasiment, je crois, 190 000 personnes, quasiment 200 000 personnes. Qui fait 30 et quelques milliards de chiffre d'affaires, 36 je crois, 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et qui est un peu plus gros que Coca-Cola, pour vous donner une idée de l'entreprise. Et c'est donc une entreprise qui fait tout ce qui est expertise comptable, expertise fiscale, conseil aux entreprises, genre PME au Luxembourg, qui ont besoin de faire leur déclaration fiscale comme n'importe quelle entreprise, soit surtout des grosses, voire très très grosses entreprises, des multinationales, qui veulent du conseil fiscal, et qui cherchent à s'implanter au Luxembourg pour une raison ou pour une autre. Genre le géant suédois du meuble, les plus grosses entreprises qui font des services en ligne, la vente en ligne pour particuliers, ou les moteurs de recherche en ligne, ou des choses comme ça. Et quand j'arrive en 2006, je ne connais ni cette entreprise, ni le Luxembourg. Donc je ne connais pas du tout le milieu de la finance, de la fiscalité, de l'expertise comptable. Et c'est en quelque sorte une grosse découverte pour moi. C'est de faire des projets administratifs pour tous les professionnels, c'est-à-dire de trier, scanner, imprimer les documents, de les classer, de les donner aux professionnels dans l'équipe qui les veulent, de faire tout ce qui est statistique, des tableaux Excel, etc. Mais c'est vraiment que l'administratif. On ne rentre pas dans le cœur des documents, dans le technique, dans le juridique, etc. On a une petite main nécessaire, mais qu'une petite main. Je fais quelque chose sans savoir véritablement ce que je fais. tous les documents que j'ai dans les mains, c'est comme si un ouvrier à l'usine faisait des pièces à longueur de journée, des milliers de pièces, sans savoir que les pièces en question, ça va servir à fabriquer des revolvers ou des chars. Et un jour, mai 2012, je vois un reportage quand je suis en investigation, que ma première réaction, ça a été de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quand je vois les documents qui passent à l'écran, le journaliste qui explique les montages, etc., on ne comprend pas tout. Je me souviens que ma femme m'a dit « De quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est ?» Elle a regardé un peu le reportage, elle n'a pas tout compris non plus. Et je lui ai dit « Mais les documents qui montrent à l'écran, c'est ce que j'ai tous les jours dans les mains. Que je suis chargé, de, avec mon équipe, de scanner, de photocopier, de classer. C'est ce genre de trucs qu'on fait. » Alors, pendant quelques jours, vous réfléchissez, vous vous dites qu'est-ce que je fais? Je dis rien, je suis complice du système, alors je fais quelque chose et je dois réagir d'une manière ou d'une autre. Il faut quand même comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans ça, vous vous dites ok, je dis rien, je continue. Mais dans ce cas-là, la journée, vous allez contribuer à un système qui est de l'évasion fiscale, que les entreprises payent le moins d'impôts possible, par exemple pour la France. Je parle pour la France parce que je suis français, et si je serais belge ou italien, ça serait pareil, ça ne changerait rien au problème, j'aurais les mêmes problèmes avec ça. Dans la journée, je travaille pour ça, et le soir, quand je vais chercher mes enfants à l'école, là, par exemple, on va me dire ça a été difficile aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont 32 en classe, en première année de maternelle. Ah oui, mais pourquoi ils sont 32? Parce qu'on n'a pas les moyens d'ouvrir une autre classe, de payer une autre maîtresse d'école pour faire des classes de 15-20 élèves où ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde, pour travailler. Pourquoi il n'y a pas de moyens? Parce que l'État n'a plus de budget. Pourquoi il n'y a pas de budget? Entre autres, parce qu'il n'y a plus de rentrée fiscale. Et c'est le boulot de ma boîte de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impôts qui rentrent dans ce pays-là, mais qui rentrent plutôt dans un autre pays. Donc quand on a un peu réalisé, un peu pris de recul, on se dit, mais en fait, je me tire une balle dans le pied, en quelque sorte. Parce qu'on ne parle pas d'une arnaque d'une entreprise à 100 000 euros dans un coin qui se réglerait avec l'administration, avec l'URSSAF ou la Sécu. On parle de sommes, déjà à l'époque, en 2012, dans le reportage, ils parlaient de dizaines de milliards d'euros. Là, avec les études de la commission taxes européennes qui ont été faites, etc., on arrive à un peu mieux à chiffrer. On parle de 50 à 70 milliards d'euros par an pour la France. Pour une européenne, on parle de 1000 milliards d'euros par an. J'ai cogité, j'ai réfléchi, je me suis beaucoup posé de questions pendant une douzaine de jours pour savoir comment faire, comment réagir. Et comme la seule solution qui me semblait possible, le seul canal possible, c'était le journaliste, qui avait déjà fait l'enquête, qui maîtrisait déjà un peu son sujet. Je l'ai contacté pour essayer de l'aider comme je pouvais avec mes moyens, mes connaissances. L'administration, elle cautionne ce genre de pratiques, vu que c'est eux, l'administration au Luxembourg, qui signaient ce genre de documents, donc difficile de les contacter. La police, je me voyais mal aller voir un policier lui expliquer un truc qui me dépasse et que lui-même n'aurait même pas compris. Donc il restait que journaliste pour faire ce travail de lanceur d'alerte.
Donc vous avez contacté Perrin, c'est ça, de France 2?
Tout à fait, contacté le journaliste. On a eu un échange d'email pendant quelques mois. Je donnais des informations par rapport à ce que je voyais moi de l'intérieur et à ce que je trouvais contraire à l'intérêt général. Et on s'est rencontrés une seule fois en octobre 2012. Lui, de son côté, c'était un peu normal, voulait avoir la certitude qu'il y avait bien quelqu'un derrière, que j'étais quelqu'un qui travaillait bien dans l'entreprise en question, qui était sérieux, et pas un charlatan ou un illuminé qui voulait se faire mousser. Moi, de mon côté, on avait communiqué par email, donc c'est vrai que rencontrer physiquement, ça permettait de voir quel genre de journaliste c'était. C'était plutôt un journaliste à sensation qui voulait faire que du buzz médiatique ou quelqu'un qui voulait vraiment creuser le sujet et qui avait vraiment à cœur ce sujet-là. Et c'est ce que j'ai vu à ce moment-là, le courant est passé. La relation par email, en quelque sorte, s'est confirmée concrètement. L'entreprise sait à ce moment-là qu'il y a une autre personne dans la presse qui a donné des documents aux journalistes qui m'ont permis de faire son reportage en mai 2012, cachant l'investigation. Elle ne sait pas que moi j'ai contacté le journaliste. Et c'est quand l'ICIJ sort des documents en novembre 2014, donc les documents du premier lanceur d'alerte, l'ICIJ c'est le consortium de journalistes, que là l'entreprise en interne fait une enquête et s'aperçoit que ok, il y a les 550 et quelques documents du premier lanceur d'alerte. Donc elle sait qu'Antoine Deltour a sorti ses 550 documents, mais elle s'aperçoit qu'il y a aussi 16 autres documents qui ont été sortis par un deuxième lanceur d'alerte qui est moi. Donc là, rebelote, si on peut dire, re-enquête interne, ils ont vu qu'il y avait 16 documents, sa déclaration fiscale, alors que la première personne avait sorti uniquement des ATAR, c'est un autre type de document. Et donc, ces 16 déclarations fiscales, ils ont réussi à voir qui avait consulté ces documents. Ils perquisitionnent chez moi sans me prévenir en fin novembre 2014, avec comme motif de la perquisition pour me faire venir des motifs qui sont « on vous a volé votre voiture, on a cambriolé votre maison ». Les gendarmes qui sont là ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils étaient juste chargés de me faire venir pour des faux motifs. Et après, donc ils ont saisi l'ordinateur, ils ont fait des recherches dans mes emails, ils m'ont posé toute une série de questions. Et c'est là que je prends un avocat, Maître Collin, et on en arrive à un accord qu'on fait avec l'employeur, quelques semaines après, où ils veulent savoir exactement ce que j'ai fait, et on conclut un accord qui était confidentiel donc à l'époque, où je participe, si on peut dire, à l'enquête interne en disant tout ce que j'ai fait avec le journaliste, où je suis obligé de le faire. En contrepartie, j'ai le droit à un licenciement avec préavis. J'ai l'obligation de ne pas parler à qui que ce soit de cette affaire. Et pour être sûr que je ne parle pas, ils estiment leur préjudice à 10 millions d'euros, avec possibilité de faire une saisie sur ma maison. Donc moi, je respecte cet accord, je ne parle de ça à personne, vu que pour moi, en quelque sorte, c'est réglé. Ok, j'ai un licenciement, mais je vais pouvoir quitter cette entreprise, ce milieu, etc. Parler de cette affaire, moi, j'ai fait mon boulot de lanceur d'alerte à ce moment-là, je vois pas ce que je pouvais faire de plus. Pour moi, en quelque sorte, le dossier est clos. Donc je suis licencié avec un licenciement effectif au 1er mai 2015, jour de la fête du travail. La particularité, c'est que, vu que normalement, je devais pas être poursuivi au pénal par mon ex-employeur, il se trouve que la juge d'instruction qui enquête et qui fait l'enquête sur Antoine Deltour, le premier lanceur d'alerte, apprend l'existence d'un second lanceur d'alerte, c'est-à-dire moi, l'existence de cet accord confidentiel, et en quelque sorte, je suis ramassé avec la patrouille, je me retrouve devant elle, devant le juge d'instruction de Luxembourg. Le procès était aussi en quelque sorte une épreuve. J'ai vu qui me soutient et qui ne me soutient pas. Ça m'a permis de faire un peu le tri dans les amis, dans l'entourage, dans certaines personnes. Donc maintenant, je sais que je vais pouvoir avancer avec certaines personnes et puis avec d'autres. Il ne faut pas oublier que même si on est avec Antoine Deltour, un journaliste accusé, c'est un procès qui est un peu à l'envers. Ce sont les innocents ou ceux qui défendent, qui dénoncent quelque chose qui se retrouvent sur le banc des accusés, alors que ceux qui ont fait l'évasion fiscale ne se retrouvent pas sur les bancs des accusés. C'est un procès qui est à la fois politique. Les vrais responsables ne sont pas là et ceux qui dénoncent sont là. C'est un peu comme si un citoyen dénonçait un voleur et que le voleur porte plainte contre lui pour avoir dénoncé, parce que ça a fait du bruit auprès des voisins. C'est le monde à l'envers. Je ne vis pas avec des regrets, mais avec des projets. Des projets, j'en ai plein. S'il me manque, c'est plus le temps de le réaliser que le reste. Je pense que mes enfants ne pourront pas dire « tu as été complice jusqu'à ta retraite, tu savais mais tu n'as rien fait ». Non, à partir du moment où j'ai su, j'ai fait quelque chose. Chacun réagit comme il veut, chacun réagit à sa manière ou pas. Moi, j'ai réagi. Je pense que le débat a avancé, puisque les règles du jeu au niveau fiscalité ont un peu changé, vont encore changer. Maintenant, on peut pas dire « on fait comme si on savait pas et on vit avec ». Maintenant, on sait. Qu'est-ce qu'on fait? Et la meilleure des réponses, c'est quand on voit au procès les dizaines de personnes qui sont là, les pétitions sur Internet qui se comptent en centaines de milliers de signataires, on voit que les gens veulent bouger, ils veulent que ça avance, il y a l'opinion qui fait pression, qui suit ça, et on veut que les règles du jeu changent.
France Culture, les pieds sur terre.
J'ai une amie qui travaille pour la banque d'investissement qui un jour m'a appelé et qui m'explique qu'UBS est en train d'ouvrir sa filiale gestion de fortune à Paris. Et moi, j'avais absolument jamais entendu parler de services financiers dédiés à la clientèle fortunée. Donc, elle m'a expliqué en deux mots. Donc, UBS, l'ancienne Union des banques suisses, qui a fusionné en 1997 avec la SBS, la Société des banques suisses, pour devenir le premier gestionnaire de fortune au monde. Donc, je passe deux entretiens, dont un avec le président, qui m'explique que UBS, c'est comme Rolls-Royce. Personne n'en entend parler, mais tout le monde sait qu'elle est présente et qu'elle existe et qu'elle est la référence dans le milieu bancaire. Donc, je commence en septembre 1999. Et là, j'arrive dans un environnement hyper feutré, où on entend les mouches voler, où il y a Je ne sais pas, justement, c'est peut-être ça, la notion de discrétion, la notion de secret, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est suspicieux, codifié. Voilà, il faut 3 signatures, il faut référer à la maison mère à Zurich à chaque fois qu'il y a une action qui est mise. Donc, en fait, il y a une inertie qui est celle de tous les grands groupes, hein, bien évidemment, et auquel moi, j'avais pas été habituée. Moi, j'étais en charge d'un budget, qui était un budget très confortable, pour gérer à la fois la communication, donc avec un aspect publicité, et la majeure partie du budget était dédiée aux événements clientèle, à la mise en place de partenariats avec des maisons de luxe. Et à partir de 2003, je ne suis plus jamais au bureau et je ne suis plus jamais chez moi. Je vis un rythme complètement dingue. Vous êtes sur une ligne de TGV lancée à grande vitesse. Vous n'avez jamais le temps de réfléchir, jamais le temps de vous poser. Et qu'en fait, vous êtes en stress permanent parce que vous êtes toujours en retard sur les objectifs qu'on vous donne. Moi, j'étais jamais là, mais j'étais toujours présente entre le téléphone, les mails, les week-ends sur mon laptop et tout ça. Et puis donc, on me dit qu'on me recrute une supérieure hiérarchique fin 2007, sans je ne comprenne vraiment pourquoi, à part le fait qu'on développerait un nouveau segment de clientèle. Il faut savoir que la gestion de fortune, comme son nom l'indique, s'adresse aux plus riches. Voilà, avec le cœur de métier, c'est plutôt des gens qui ont au-dessus de 10 millions d'euros en compte, 30 et plus. Et que là, UBS s'attaquait à ce qu'ils ont appelé à l'époque du core affluent. Donc core affluent, je sais pas trop comment vous traduire ça, mais en tout cas, ce sont les petites fortunes entre 300 000 et 1 million d'euros. Et là, moi, j'ai eu un doute. Et je me suis dit, mais comment est-ce que tout le monde peut croire que c'est ça qui va générer énormément d'argent ? Parce que c'est pas, ça colle pas à l'image du BS. Et en gros, bon, ça a été institutionnalisé comme ça partout sur la planète. Et donc, UBS m'a annoncé recruter une supérieure hiérarchie qui allait justement développer ce segment de clientèle parce qu'elle connaissait les produits bancaires, ce qui n'était pas mon cas. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Sauf que depuis mon arrivée à la banque, tous les ans, au moment des évaluations, je disais, moi, j'aimerais bien connaître les produits bancaires. Ça me permettrait peut-être d'évoluer un jour. Et puis, à chaque fois, on me disait, non, non, toi, t'es très bien à ton poste. Toi, t'es quelqu'un qui aime les gens. T'es quelqu'un qui aime communiquer. Donc, c'est pas nécessaire. Donc, quelques mois plus tard, une perquisition a lieu dans le bureau du directeur général. Cette supérieure hiérarchique vient me demander complètement, en état de panique, de détruire une partie de mon disque dur. Moi, j'étais occupée à gérer un golf avec Genève, donc je n'ai pas prêté attention à ce qu'elle me demandait. Je lui ai surtout demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette perquisition ? Enfin, dans le bureau du directeur général, c'est assez important pour qu'on en ait un... Pour qu'on ait un détail de quoi ça parle, de quel client, de quel problème... Est-ce que nous, on est concernés ? Est-ce que c'est lui à titre personnel ? Est-ce que... Rien. Rien. Donc, je ne veux pas détruire ces données. Donc, en gros, je suis placardisée, isolée, harcelée. Moi, mon histoire, en fait, commence là. Hein. Ma descente aux enfers, ma dépression et toute la problématique que j'ai eue de ce qu'on appelle aujourd'hui lancer l'alerte ou le lancement d'alerte. Pour moi, j'étais juste un témoin et une collaboratrice qui découvrait quelque chose. Et donc après, j'ai posé des tonnes de questions, que ce soit à ma hiérarchie, moi N plus 1, moi N plus 2, le directeur général, dont le bureau avait été perquisitionné, le président, la DRH, le directeur juridique, et tout le monde a eu des réponses, mais absolument incroyables, en disant que j'étais fatiguée, que j'étais pas banquier, que je comprenais pas grand-chose à la finance, que je me posais trop de questions, que tout le monde se rendait compte que j'étais pas très bien, que en fait j'avais très mal accueilli ma supérieure hiérarchique. Donc en fait, tout s'est retourné contre moi. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Pendant 8 ans, moi j'étais correctement notée. Donc est arrivée la fin de l'année 2008 où j'ai eu une note catastrophique en évaluation. Si on notait ça sur 20, j'étais notée en gros 4 sur 20 après 8 ou 9 ans de présence. Et donc là, c'est une véritable descente aux enfers, puisque je suis mal notée, puisque il y a quand même des instructions qui sont données pour qu'on ne m'approche plus ou que je sois relativement isolée. Vous n'existez plus pour personne. Moi, on m'a fait devenir, à un moment donné, je crois que c'était fin 2008 ou en 2009, chef des hôtesses de la réception au troisième étage, où il fallait que je vérifie si les plantes vertes étaient bien arrosées, s'il y avait bien les fleurs dans les vases. Bon, j'ai absolument rien contre les hôtesses et rien contre ce type de métier, mais par définition, moi, j'avais absolument rien à faire là. Et là, vous êtes dans un monde, c'est complètement lunaire, c'est-à-dire vous vous donnez votre vie depuis 8 ans, vous mangez UBS, vous dormez UBS, vous partez en vacances UBS, vous élevez vos enfants UBS, tout est UBS dans votre vie, et que finalement, l'entreprise que vous pensez être votre meilleure amie, puisque vous y dévouez toute votre énergie et tout votre temps, s'avère être votre pire ennemi. Et puis finalement, vous découvrez que vous êtes au milieu d'une affaire où, les chargés d'affaires suisses avec lesquels moi j'ai toujours travaillé, parce qu'ils étaient présents sur chacun ou quasiment chacun des événements que j'organisais, étaient là pour démarcher des clients, pour leur vendre des produits offshore, et que leur présence n'est pas légale en France et ils n'ont pas le droit d'approcher les clients, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de licence, et que la banque UBS en Suisse n'a pas de licence. Quand vous apprenez que le cœur de métier de votre banque, c'est l'offshore, parce que les filiales offshore sont les plus rentables, et que vous commencez à vous intéresser justement à tout ce qui est cette industrie, hein, avec les autres affaires bancaires qui ont défrayé la chronique ces dernières années, là vous vous dites, mais pourquoi personne ne parle ? Moi, c'est ce qui m'a choqué le plus en fait. À partir de la fin 2008, moi je rencontre l'inspection du travail à laquelle je raconte ce qui se passe. L'inspection du travail qui nous dit, mais attendez, nous on peut vous soutenir socialement, donc c'est-à-dire au niveau du harcèlement, de la placardisation que vous subissez, mais nous ne sommes pas là pour vous protéger pénalement. Donc on me demande de porter plainte contre la banque pour les motifs donc de démarchage illicite, comptabilité parallèle, évasion fiscale et blanchiment de capitaux en bande organisée. Mais moi, je dis à l'inspection du travail, vous vous rendez compte que je suis une maman, j'élève mes enfants seuls, mon salaire est mon seul revenu. Comment est-ce que vous voulez que je fasse ? Enfin, c'est là où, quelque part, j'ai de la chance de ne pas être devenue schizophrène. C'est-à-dire que vous travaillez à l'intérieur d'un employeur que vous dénoncez, mais qui finalement vous aide à payer vos factures comme n'importe quel salarié à la fin du mois. Et l'inspection du travail me dit que ce qui sera mis en place sera là pour me protéger. UBS se dit, pour se débarrasser d'elle, on va la mettre dans un plan social en 2009. L'inspection du travail refuse mon licenciement, puisqu'elle dit à UBS, mais vous ne vouliez pas licencier Stéphanie Gibaud pour des motifs économiques, c'est parce qu'elle a mis le doigt sur des opérations illicites. Et là, je suis régulièrement, mais complètement au fond du trou. Comme l'inspection du travail en Suisse, en 2010, vient faire une visite surprise dans l'entreprise, elle demande de me réintégrer à mon poste, puisque mon poste a été donné à quelqu'un bien plus jeune que moi, dont je suis devenue la subalterne. Donc, si vous voulez, je vis quelque chose, un harcèlement caractérisé absolument effarant. Et UBS va vouloir me licencier une nouvelle fois fin 2011. L'inspection du travail accepte de me licencier en me disant, même Gibaud, vous tenez plus debout, vous pourrez reprendre une vie plutôt que rester à l'intérieur avec un salaire. Et j'ai été plusieurs mois, mais complètement amorphe, où je continuais chez moi à étudier tous les documents, à préparer mon prud'homme, puisque j'ai attaqué UBS pour le harcèlement caractérisé que j'ai subi à partir de 2008. Et j'ai gagné donc l'année dernière sans qu'il y ait appel de la banque. Donc c'est quand même utile de rappeler que malgré le discrédit que je peux encore subir aujourd'hui, ou les plaintes en diffamation et tout le reste, j'ai quand même deux jugements qui disent que ce que je dis est vrai et que ce que j'ai subi est vrai. Voilà. Vous savez, j'avais un de mes fils qui avait 5 ans à l'époque, quand ça a commencé. Donc vous imaginez, elle a pris son enfance, cette histoire a pris son enfance. C'est très douloureux, parce que d'un côté, il ne peut plus entendre parler d'UBS, de Bercy, des douanes, des médias, tout ça. Il n'en peut plus, de la justice. Chaque fois que je pars dans une cour, il est horrifié. L'année dernière, et ça a été tellement révélateur, il n'a pas voulu aller à l'école le jour où le jugement de mon prud'homme a été rendu, parce qu'il pensait que le tribunal des prud'hommes, c'était une prison. Et il pensait qu'en fait, je n'allais pas revenir à la maison et qu'on allait m'embarquer et qu'il ne me verrait plus jamais. J'ai l'impression parfois que c'est de la télé-réalité. C'est très bizarre. C'est-à-dire que tous les lanceurs d'alerte ont fait comme moi, ils ont mis de la lumière sur quelque chose qui n'allait pas. Et si on a voulu nous museler, nous écraser, nous faire taire, c'est bien pour protéger ceux qui sont toujours en place aujourd'hui et qui continuent à mentir. C'est une industrie. Et la preuve, il n'y a pas QBS qui a défrayé la chronique ces dernières années sur la thématique d'évasion fiscale et de blanchiment de capitaux. Donc vous vous retrouvez tout seul avec vos petits points et tout se retourne contre vous.
Best thing in life is free, but you can give it to the birds and bees. I need some money, need some money, oh yeah, what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money, need some money, oh yeah, what I want. I need some money, honey, I need some money right away. I need some money so bad, I need some money, oh yeah, what I want.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et nos lanceurs d'alerte à nous. Un reportage d'Ayati Bazarslan réalisé par Eric Lancien. Merci à Stéphanie Gibault, à Raphaël Alep bien sûr, à Maître May Nabelpa et à Maître Bernard Collin, avocat de à l'aide, des commentaires, des réactions, c'est sur notre site. Vous pouvez normalement, logiquement, en poster. Vous pouvez également partager nos émissions sur les réseaux sociaux, Facebook et autres Twitter. On vous y attend nombreux. Vous pouvez également vous abonner à notre podcast. Vous le devez, c'est quasiment obligatoire si vous voulez nous écouter quand vous voulez, où vous voulez et avec qui vous le souhaitez. Sandrine Chaperon, comment l'oublier ? C'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Notre stagiaire du moment, c'est Nathalie Hérault.